Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux, pour mener avec le frère Dominique Collin une lecture cursive de l'Évangile de Marc aujourd'hui, cinquième émission. Et vous le savez, nous nous efforçons de vous inviter à trouver une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Alors frère Dominique, bonjour.
Bonjour Pierre-Paul.
Et nous sommes dans cette premier enseignement de Jésus à Capharnaüm. Il est à la synagogue et tout le monde est frappé par son autorité. Et puis, il y a un dialogue, une sorte d'altercation entre lui et ce qu'on appelle un possédé.
Oui, on pourrait appeler déjà ce dialogue, en tout cas pour son commencement, comme un dialogue de sourds. Mais en tout cas, cet homme donc, qui est affecté dans son corps, dans sa chair, dans son esprit, par un esprit impur, ce qui désigne donc, en dehors de toute connaissance médicale ou psychologique précise, donc des forces contraires, des forces d'autodestruction, qui rappellent aussi que Marc ne va jamais décrire un esprit impur en lui-même, mais toujours un homme en esprit impur. C'est important hein, pour tous ceux qui veulent voir là diablerie. C'est toujours un homme affecté. Donc la pointe, si vous voulez, de l'expression, c'est pas l'esprit impur, c'est l'homme. J'allais dire, il reste un humain et peut-être même est-ce là le début d'une guérison, en tout cas le début d'un processus thérapeutique, c'est qu'il s'agit d'un homme. Un homme affecté, un homme meurtri et blessé, qu'il s'agit souvent de dégager, de délier, de libérer donc de ses pulsions mauvaises. Et ces pulsions, donc, d'autant plus qu'elles le violentent. Et dans la relation, la réaction plutôt, puisqu'on ne va pas encore parler de relation, la réaction occasionnée par la parole de Jésus fait sortir cette violence. Mais une violence qui est d'abord « Que nous veux-tu ? Quoi à toi, à moi ?» C'est-à-dire mettre d'abord entre le patient et son thérapeute, une distance. Et vous savez, il y a beaucoup de patients qui, à la fois, ont un désir secret de guérison, mais aussi une méfiance. Et ils prennent distance avec leur thérapeute ou leur médecin, en disant « Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Pourquoi est-ce qu'il veut me faire ça ?» Hein, donc je montre et j'essayerai tout au long de ce parcours de lecture de l'Évangile de Marc. Je vais essayer de réduire la distance entre des images qui nous paraîtraient merveilleuses, mythologiques et ne nous concernant pas, avec des réalités quotidiennes que un nombre considérable d'humains, peut-être vous et moi, vivons. Donc un homme en esprit impur ne se rencontrait pas uniquement il y a 2000 ans dans une synagogue de Capharnaüm. Ce sont des réalités qui malheureusement se rencontrent tous les jours et peut-être même que notre société, et ça c'est une interprétation et une analyse que fait notamment René Caiss dans son livre « Le mal-être en un mot », qui montre que notre société, société consumériste, produit des êtres addictifs. Donc il y a une addiction à l'addiction, si l'on veut. Eh bien, cette addiction, c'est exactement ce que Marc décrit le plus souvent par un homme en esprit impur. Donc quelqu'un qui vit dans son addiction et qui n'en sort pas et qui entre donc dans une spirale vicieuse où petit à petit, donc, il s'autodétruit. Et donc, ces réalités-là, décrites dans leur langage, dans un évangile comme celui de Marc, sont des réalités que nous rencontrons encore aujourd'hui, en 2015. Donc ça, c'était important, me semble-t-il, de relever cela. Donc, que nous veux-tu ? Tu es venu pour nous perdre, alors je sais qui tu es. Vous l'avez déjà montré, il y a dans cette phrase, d'autant plus qu'elle a l'air de donner une connaissance juste de Jésus. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors, les commentateurs, en tout cas les commentateurs classiques, pendant longtemps et encore aujourd'hui, nous parlent du secret messianique chez Marc, c'est-à-dire de nous dire que finalement Jésus n'a pas envie que l'on révèle trop vite qu'il est le Messie ou le Saint de Dieu ou le Fils de Dieu et que les démons, les esprits impurs en ont une connaissance qu'ils déclarent trop rapidement au goût de Jésus qui va donc les faire taire. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que Jésus est Saint de Dieu ? On ne reverra pas cette expression après dans l'évangile de Marc. Mais quoi qu'il en soit de la justesse de la référence, dans de savoir est-ce que Jésus est saint de Dieu, probablement que oui, mais dite dans la bouche de quelqu'un qui s'en sert pour refuser la relation avec le saint de Dieu, cette vérité de la proposition devient une contre-vérité puisqu'elle est le mensonge de quelqu'un qui ne veut pas de cette relation. Quand je dis quelque chose, fût-il vrai à quelqu'un en voulant me sortir de la relation à cette personne, je ne fais pas la vérité d'une communication humaine. Et cette vérité, c'est justement le fait d'être en esprit impur.
Et c'est en fait, cet homme est dans la volonté de maîtrise.
Il est
je
dans
sais
la...
qui tu es.
Je sais, il a un savoir. Et le savoir, c'est toujours une disposition d'esprit. Nous l'oublions et ce n'est pas nécessairement violent à tous les égards, heureusement. Mais tout savoir est une prise d'un sujet connaissant sur un objet de savoir. Objet, chosification. C'est-à-dire, je fais d'un être, qu'il soit un être vivant, un humain, j'en fais ma chose quand j'exerce sur lui une volonté de savoir.
Et c'est un savoir sur Dieu.
Justement. Et c'est un savoir, en plus, ici. Sur Dieu, ou sur le saint de Dieu, mais même sur n'importe quel être humain, qui est un mystère, mystère d'engendrement, de filialité, c'est toujours, d'une certaine manière, tuer quelqu'un que de le réduire, de le résoudre à simplement ce que j'en sais. Et d'autant plus que souvent, ce que nous savons des autres, non seulement ne dit pas la totalité de ce qu'est un être, mais parfois, en plus, nous ne savons pas vraiment qui est l'être devant nous. Denis Vasse l'écrit dans un de ses livres en relatant une séance donc de thérapie avec un enfant qui disait très rapidement « tu es, tu es, tu es, tu es, tu es ». Et Denis Vasse entendait finalement le verbe « tuer ». Tuer, tuer. Et il en fait donc un commentaire pour montrer dans ce rapport phonologique qu'il y a quelque chose de vrai. Une relation basée exclusivement sur le savoir. Donc distinguons-la d'une relation basée sur la confiance, la foi, pour que déjà on comprenne vers quel type d'autres relations qualifiées est véritablement le signe et la marque du royaume. Le royaume, ce sont des relations qualifiées sur la base de la confiance. Et la confiance ne sait pas. Et c'est précisément parce qu'elle ne sait pas qu'elle fait confiance. Tandis que le savoir se dispense toujours de la confiance, puisqu'il sait. Et s'il ne sait pas, il est dans la méfiance. C'est important de bien manifester d'emblée, en accentuant peut-être un peu, mais je crois que c'est très très important de voir que nous allons aller vers deux types de relations. Les relations en esprit impur sont des relations de savoir, et d'abord ce savoir est censé, j'allais dire, maîtriser Jésus, et le rendre inopérant, le rendre tout à fait inefficace, et puis les relations de confiance, où Jésus va relever cette confiance qui redresse et relève les gens, ta foi t'a sauvé, et qui n'est donc pas une relation de savoir.
Et alors, par rapport à ça, Jésus a une réaction...
Très
dure.
C'est une réaction dure. Quand on est devant la possibilité que la parole ne soit pas ajustée, la parole qui n'est pas ajustée dans la vérité donc, de la communication et du rapport qu'elle établit avec quelqu'un, risque quoi ? Eh bien, elle risque la violence, elle risque le délire. Le délire. C'est-à-dire une parole qui, dans son chaos, dans sa violence, parce qu'elle n'est pas adressée et ajustée, tourne en rond et tourne fou. Et devant une parole de délire, il n'y a pas 36 réactions possibles. Le thérapeute sait très bien, encore aujourd'hui, que devant le délire, enfin, quand on l'a laissé, si l'on veut, parler à un moment donné, il faut presque par une injonction. Et il y a un grand spécialiste de ce qu'on appelle le langage de changement, donc les thérapies brèves, c'est Watzlawick, qui dit que pour faire changer quelqu'un, il faut utiliser souvent le langage de l'injonction, c'est-à-dire lui ordonner un autre comportement. C'est-à-dire ne pas entrer avec lui dans l'explication, chercher les causalités, pourquoi est-ce que ça vous arrive, comment ça vous arrive, toutes choses qui peuvent être utiles pour faire un diagnostic, mais à un moment donné, le thérapeute, s'il veut voir un effet de changement, il doit enjoindre de passer à autre chose, sans autre forme d'explication. Le thérapeute joue, et c'est très important, uniquement sur son autorité, c'est-à-dire l'autorité qui lui est reconnue comme un thérapeute. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette synagogue de Capharnaüm. Il y a une reconnaissance de l'autorité de Jésus. Et c'est cette reconnaissance qui donne à Jésus l'autorisation aussi de dire à cet homme qui entre dans son délire, « Je sais qui tu es, la ferme. » Parce que le mot grec est aussi tranchant et clair que la ferme.
Tais-toi et sors de cet homme.
Et alors, il y a une injonction de sortie. Parce que je vous l'ai dit, donc, si cet homme est dans son esprit impur, pour celui qui voit cet homme, eh bien, c'est l'esprit impur qui est en lui. C'est toujours, si vous voulez, ce double pôle dans une pathologie. Donc, l'alcoolique, il faut lui dire arrête de boire, si l'on veut, parce qu'il est dans sa boisson, parce qu'il est dans l'alcool. Donc, il y a une injonction de sortie. Et cet effet donc de l'injonction fait ce qu'elle dit. Hein, il y a une performativité de la parole, comme on dit, c'est-à-dire
Elle est efficace.
Fait ce qu'elle dit, et donc l'esprit impur le secoua avec violence, et elle sort en poussant des cris. Donc, il y a la fin donc de cette violence de la parole de délire.
Et alors, de nouveau, les spectateurs sont saisis. Et il se explicitement, et Marc prend le temps, qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité, ça on l'a déjà entendu. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Là, manifestement, il y a un étonnement immense.
Tout à fait. L'étonnement, d'autant plus qu'il devient un étonnement, et ça c'est une précision à cet endroit de Marc, qu'il ne nous l'avait pas dit au début de cet épisode à Capharnaüm, c'est qu'il se demandait les uns aux autres. Qu'est-ce que cela ? Donc l'étonnement qui était l'étonnement de chacun dans les tous devient un étonnement entre eux. Et ça montre déjà que la parole de Jésus fait se parler. Et c'est une parole qui n'est pas une parole de savoir, puisque c'est une parole d'interrogation, qui est le début de la possibilité de reconfigurer autrement et son savoir, et probablement aussi d'entrer dans le registre de la confiance. Parce que si les gens avaient dit « on sait », parce qu'il a de l'autorité là, ils auraient été à nouveau dans la même pathologie que l'esprit impur. Tandis que là, c'est une interrogation. Qu'est-ce que cela ? Et moi, j'y entends presque aussi des relents, si l'on veut, de ce que les Hébreux dans le désert, quand ils récriminent contre Dieu parce qu'ils ont faim, et que Dieu leur donne la manne. Manne, c'est manhu. Et ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est donc ? Finalement, l'étonnement, c'est toujours cette capacité qu'a l'humain de sortir juste de son objectivité quant à lui, de son savoir établi, qui est toujours une recherche de sécurité du moi-je, pour entrer donc dans l'altérité, ou plutôt l'altérisation qui vient de l'événement. Qu'est-ce que c'est ? Henri Maldinet, qui est un philosophe qui vient de mourir il y a un âge plus que vénérable, auteur remarquable, qui a travaillé sur à la fois la thérapie, sur l'art et la philosophie, bien sûr, il disait que dans la vie, nous devrions redevenir des Japonais. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, il avait constaté que des Japonais, à l'époque en tout cas, quand ils étaient dans un musée ou devant un beau monument, avec leurs appareils photo, bien entendu, poussaient des « ah » d'étonnement, des petits cris de stupeur, de surprise, de curiosité. Eh bien, Henri Maldinet dit que, et il se souvenait que la philosophie naît avec l'étonnement, disaient les présocratiques, c'est que le début peut-être de quelque chose de neuf, d'un surgissement, d'une naissance, de quelque chose qui est inouï et inédit, peut-être que dans la vie spirituelle et existentielle, nous devrions faire à nouveau, contrairement au blasé, « ah, ah ». Il y a du neuf.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les interrogations, les questions sont naissance et sont véritablement aussi nourriture. Comme dans le désert, manou, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et en même temps, c'est une nourriture. C'est naissance et nourrissant.
Et d'une nourriture qui, paradoxalement, donc, n'est pas une nourriture comblante au niveau donc, du besoin de savoir, mais elle relance l'interrogation. Il faudrait nous nourrir davantage de paroles qui, je vais le dire comme un psychanalyste pourrait le dire, laisse à désirer.
Certainement. Et d'ailleurs, nos frères juifs disent qu'une réponse ne doit jamais épuiser la question. Et donc, il y a encore une autre question.
Voilà.
Nous allons faire une pause musicale avec des Swingle Singers qui revisitent Jean-Sébastien Bach. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Marc avec Dominique Collin et Pierre-Paul Delvaux. Nous venons de vivre la grande confrontation de Jésus avec cet homme possédé. Et puis, il y a ensuite, on voit Jésus aller un peu plus loin. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approche et la fait lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir.
Nous quittons donc la synagogue pour aller à la maison. Ce déplacement qui a l'air tout à fait fortuit, anecdotique finalement, quand on sort d'une église encore aujourd'hui, c'est pour rentrer chez soi. Mais ça va aussi montrer une sorte de polarité, de déplacement de plus en plus grand chez Marc, où les synagogues vont être abandonnées pour la maison. C'est-à-dire qu'il y a un glissement d'un lieu qui est strictement, si l'on veut, religieux, vers un lieu qui est strictement profane, mais somme toute là où se vit la vie humaine, dans ses relations, puisqu'une maison, c'est aussi une maisonnée, donc c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de frontière, de cercle d'intimité, c'est un lieu où l'on est chez soi, mais où l'on est chez soi avec d'autres, et en accueillant aussi l'autre. Donc ça va devenir une figure importante, et on le relèvera, les déplacements chez Marc sont toujours significatifs. Et disent quelque chose non seulement bien, d'une sorte de carnet de route, mais aussi de fonction que les lieux, les espaces ont dans la Bible. Alors, on arrive donc dans un univers domestique, et pour le premier récit de guérison d'une malade ou d'un malade, et c'est une malade, c'est une femme, il faut le noter, dans l'évangile de Marc, on a quelque chose de très intime et intimiste, avec même une sorte de mise en scène qui se réduit au strict essentiel, c'est-à-dire on a l'expression de la maladie, la fièvre en l'occurrence, et en l'absence de toute parole de la part de Jésus, de toute parole humaine, mais de toute parole religieuse, où on ne fait pas venir, je vais dire, une puissance de Dieu, il n'y a pas d'invocation, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de mise en scène comme pouvaient le faire les thaumaturges, c'est-à-dire les faiseurs de miracles, qui pullulaient dans l'Antiquité un peu partout. On n'a rien d'une mise en scène magique. On a un simple geste qui est de prendre la main. Et cette personne, qui était donc enfiévrée, se relève. Donc il y a une simplicité, une sorte d'épuration de la scène miraculeuse pour enlever probablement, et je crois que c'est une intention chez Marc, pour enlever tout caractère merveilleux, parce qu'il va prendre une distance qui est peut-être une distance que d'autres évangélistes ne prendront plus avec la même force que Marc, une distance entre ce qui émerveille, c'est-à-dire qui fascine, qui est de l'ordre d'un voir pour avoir des preuves. Nous verrons que les pharisiens vont le demander, ce signe probant à Jésus, et qu'ils vont en rester pour leurs frais. Et le lecteur qui voudrait une sorte de compensation à sa foi parfois difficile, ou à ses atermoiements, ou à ses croyances plus ou moins fondées, voudrait avoir des assurances peut-être dans le merveilleux, eh bien, on est réduit lui aussi à ses frais. Et ce premier récit, donc domestique et d'une simplicité presque navrante pour celui qui voudrait en savoir plus, eh bien, nous oblige déjà à réviser peut-être nos projections aussi sur l'activité thérapeutique de Jésus, ce que nous appelons donc ces miracles. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus? D'abord, est-ce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi cette femme? Donc cette femme, on nous la situe dans une relation de parenté familiale avec Simon. C'est la belle-mère de Simon. On rappelle déjà que Simon était marié comme les autres à l'époque. Elle a de la fièvre. Alors moi, je suis, parce que je la trouve à tout le moins suggestive, même si elle oblige à lire un peu entre les lignes. Mais Paul Beauchamp, le grand exégète Paul Beauchamp, disait que bien lire, c'est aussi toujours lire entre les lignes. Alors, il faut toujours se donner aussi les moyens de prévenir, donc de contrôler le fait que nos lectures peuvent être, à certains moments, tellement délirantes qu'on n'est plus dans le texte. Mais lire, c'est aussi essayer petit à petit de comprendre le réseau de sens qui tisse. Or, Simon et André sont donc les deux appelés, les deux pêcheurs.
Les deux premiers.
Qui vont, avec Jacques et Jean, quitter leur père Zébédée, etc. Ça veut dire que il y a eu un effet chez quatre hommes de visiblement quitter, prendre le large, c'est le cas de le dire en ce qui les concerne, de prendre le large avec leur réseau familial, leur réseau, j'allais dire, quotidien et domestique, de quitter la maison, de quitter la famille. Est-ce qu'on peut imaginer que ces gens ont vu partir leur beau-fils, leur frère, leur fils, etc., comme ça, alors que toute l'organisation est l'entreprise économique? Il faut penser que la famille, c'est une entreprise économique de pêcheurs, de petits pêcheurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on voit partir quatre hommes pour un homme dont on ne sait encore rien, qui est un obscur prêcheur galiléen, comme il y en avait aussi une flopée à l'époque? Il y a eu un effet, là encore, qui a été probablement assez traumatique, en fait, pour les gens restés là. Alors, la lecture que Eugène Drewermann fait, et à laquelle je donne quelques... Enfin, que je suis assez bien, c'est de penser que la belle-mère, elle a une maladie qui est... Le Lévitique dit lui-même, donc le livre du Lévitique, que la fièvre, c'est ce qui grignote la vie. Elle est prise par un grignotage de la vie, parce que quand la vie a l'air de se jouer dans la suite de ce Jésus, et Simon, son beau-fils, suit cette vie, il suit cette aventure, cette femme en est peut-être réduite à se demander « Et ma vie, la mienne ?» Moi qui, tous les jours, refais les mêmes tâches, les tâches ménagères, les tâches économiques, qui suis à ma place, mais qui a, comme tout être humain peut-être, des désirs fous, des désirs audacieux, des envies d'aller voir ailleurs, ou peut-être simplement, sans aller voir ailleurs, de remettre ce que Kierkegaard appellerait remettre de la vie à la vie ou dans la vie, de remettre de l'infini dans le fini, c'est-à-dire de remettre du désir dans... La répétition, somme toute souvent banale, des tâches qui sont les nôtres tous les jours. Eh bien, cette femme peut-être laisse son désir de vivre mourir à petit feu, peut-être aussi par irritation contre ce Simon qui, lui, quelle folie, allait suivre cet homme, lâcher des filets, c'est-à-dire lâcher sa sécurité et lâcher ses solidarités humaines qui sont à l'époque, vous le savez, bien plus importantes qu'elles ne le sont devenues aujourd'hui.
Est-ce que cette femme était un peu en perte de projet de sens et puis tout d'un coup, elle retrouve un projet de
Exactement.
Sens parce qu'on dit oui. qu'elle va les servir.
Tout à fait. Et bien, c'est ça le signe que quelque chose doit se passer de cette sorte-là. C'est que donc, il y a une sorte de laisser-aller de la vie et elle devient une vivotante, la vie grignotée par la fièvre. Elle devient vivotante et là, proximité. Jésus s'approcha la fille levée en lui prenant la main. Cette proximité délicate, bienfaisante de Jésus qui est dans son lieu à elle, domestique. C'est-à-dire, comprenez ce que je viens de dire, Simon, son beau-fils, a tout quitté pour suivre Jésus. Mais Jésus, le voilà qui revient exactement dans la maison. C'est-à-dire que suivre Jésus, ce n'est pas quitter, c'est revenir et revenir autrement. Le changement du royaume, c'est, je le répète et je le répéterai encore, ce n'est pas quitter pour un fantasme d'une autre vie, aller voir ailleurs où l'herbe est toujours plus verte, c'est revenir à l'endroit même qui est ma vie, mais y revenir autrement. Elle était peut-être enfiévrée de devoir faire ses tâches ménagères, dès que elle est invitée à reconsidérer autrement sa vie, elle retrouve une force de les servir. C'est-à-dire, elle ne fait pas autre chose, mais autrement. Le verbe qui a donné le mot diacre, diakoneo, elle sert, et visiblement, elle retrouve là sa guérison.
Et elle trouve véritablement un accomplissement.
Exactement. Voilà, c'est cette lecture, alors peut-être que certains la trouveront un peu sollicitée, mais je crois qu'elle a, dans son réseau et sa cohérence, et avec ce qui s'est passé avant, et surtout ce fait que Jésus revient dans cette maison, c'est-à-dire réinvite tous à, j'allais dire, retrouver leur vie et leur place autrement.
Je pense que nous pourrons rester là pour aujourd'hui, avec cette invitation à faire les choses autrement. Merci beaucoup, frère Dominique.
Nous allons, merci, Pierre-Paul.
Avec grand plaisir, nous quittons avec les Swingle Singers.